Bien. Bonjour à tous et tout d'abord, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Le hasard a voulu que nous ayons terminé l'année 2009 les pieds dans la neige et nous nous retrouvons en 2010 donc dans la même situation. Et encore une fois, merci à vous d'être contre vents et marées aussi fidèles et aussi nombreux au rendez-vous. En décembre, vous vous en souvenez peut-être, nous avions entrepris de parler du premier moment de ce que j'ai appelé la mondialisation de Confucius et de ses entretiens tout particulièrement, avec la médiation des missionnaires chrétiens, à commencer par les missionnaires jésuites, dont la première vague, vous vous en souvenez sans doute, a été conduite par le grand Matteo Ricci, dont vous avez le nom ici, et le nom chinois, donc Limato. Alors, après la mort de Ricci en 1610, d'autres vagues de missionnaires arrivent en Chine pendant tout le XVIIe siècle, qui est un siècle très important dans l'histoire chinoise puisqu'il a été marqué par un tournant tout à fait décisif. La dynastie des Ming, qui a donc régné entre en gros le XIVe et le XVIIe siècle, donc entre 1368 et 1644, cette dynastie des Ming qui avait connu Ricci et les premiers missionnaires jésuites se voit mettre fin par la conquête manchoue qui donc en 1644 met en place la dynastie non chinoise, la dynastie manchoue des Qing, dont vous avez les dates ici, donc elle commence en 1644 pour, comme vous le voyez, terminer en 1911. C'est donc l'une des plus longues dynasties de l'histoire impériale, puisqu'elle a duré plus de deux siècles et demi, mais c'est aussi la dernière de ce régime impérial, puisqu'elle s'effondre en 1911 pour laisser place à la toute première république chinoise, donc à l'aube du siècle dernier. Donc les nouveaux missionnaires jésuites continuent le travail de traduction des classiques confucéens, commencé par la première vague, mais cette fois, leur visée dépasse la simple finalité pédagogique. Vous vous rappelez peut-être que Matteo Ricci et la première vague donc, de missionnaires jésuites avaient commencé un travail de traduction des classiques confucéens afin de se former donc, à la pratique du chinois classique pour eux-mêmes et aussi pour former donc, les nouveaux arrivants. Alors à présent, le corpus des classiques est présenté comme une véritable philosophie, ce que les jésuites appellent dans leur latin une sapientia ou une scientia. En 1662 est en effet compilée une sapientia sinica par le jésuite portugais Inácio da Costa, dont vous avez le nom ici, donc, qui a vécu entre 1603 et 1666, assisté de l'italien Prospero Intorcetta, donc, dont vous avez le nom ici, dont les dates sont 1626 à 1696. Alors, cette compilation, Sapientia Sinica, comprend une traduction de la grande étude en chinois Ta Xue, la grande étude qui fait partie du corpus des quatre livres, les Sechou, qui sont venus s'adjoindre donc aux cinq classiques canonisés depuis l'époque des Han, c'est-à-dire donc depuis environ le IIe siècle avant l'ère chrétienne, les quatre livres étant venus s'adjoindre au corpus canonique des cinq classiques au XIIe siècle par donc l'effet des commentaires du grand Zhuxi, donc qui a vécu entre 1130 et 1200, comme vous le voyez ici. Alors, cette traduction de la grande étude est celle qui a été commencée par Ricci et qui ensuite a été améliorée donc au fil des années par ses successeurs. La compilation donc du Sapientia Sinica comprend également une biographie abrégée de Confucius. Là, vous voyez que nous avons déjà les fondations de quelque chose qui sera repris ultérieurement. Et nous avons également dans cette compilation la traduction des cinq premiers livres des entretiens de Confucius. Ces entretiens donc qui font également partie, comme vous le voyez, des quatre livres. Alors cette traduction de la grande étude est la première traduction bilingue chinois-latin que nous ayons, et vous en avez donc ici le début. J'espère que voilà, maintenant j'ai appris enfin à me servir de cet ordinateur. Donc vous avez ici la première page de cette traduction du Da Xue. Donc là, vous avez ici la transcription inventée par les jésuites. Ce sont eux aussi qui ont mis au point ce premier système de transcription. Alors, vous voyez à travers cette première page que comment se présente donc ce travail des jésuites, en cours de chantier. Vous avez ici donc la première phrase. Tout en haut, donc la première phrase de la grande étude, Da Xue Zhi Dao Zai Ming Ming De. Pour l'instant, je ne m'attarde pas sur la traduction, mais ce que je voudrais que vous puissiez apercevoir, j'espère que vous le voyez même du fond, vous avez donc la copie de la première phrase en chinois et à côté de chaque caractère, vous avez la prononciation, donc dans la transcription des jésuites. Donc là, vous voyez que nous avons un projet qui commence par une finalité didactique. Les jésuites apprennent le chinois comme ça, par les classiques. Et pour eux, c'est une véritable langue, c'est-à-dire que c'est une langue qui s'écrit et qui se prononce. Et ensuite, chaque membre de phrase chinoise, là vous avez donc les premiers mots, est suivi donc d'une traduction en latin. Alors en fait, cette traduction, vous la voyez ici, dans le premier paragraphe, ici, c'est en fait une sorte de paraphrase avec donc la traduction des mots chinois en latin soulignés, c'est-à-dire que seuls sont soulignés en latin donc les traductions des mots chinois, et tout le reste donc de la traduction latine est une paraphrase. Alors ceci montre bien que les jésuites perçoivent très clairement que le chinois écrit, ce que en chinois on appelle le Wenyanwen, est bien l'équivalent du latin comme scripta franca entre les clercs européens. Donc ils ont bien compris que nous avons ici quelque chose qui ressemble tout à fait au latin donc qu'ils pratiquent eux-mêmes. Je rappelle qu'à cette époque, donc nous sommes au XVIe-XVIIe siècle, la langue écrite chinoise sert effectivement donc de lingua franca entre les clercs de toute l'Asie orientale, c'est-à-dire donc au Japon, en Corée, au Vietnam. Hein, donc, et ceci vaudra jusqu'à une époque relativement récente, en tout cas jusqu'à l'aube de la modernité. Alors, quelques années après donc, la Sapientia Sinica, entre 1667 et 1669, le père italien Intorcetta, dont je viens de parler, continue sur sa lancée en faisant paraître le Sinarum Scientia Politico-Moralis, c'est-à-dire donc la science, ou on pourrait dire presque la philosophie politico-morale des Chinois, qui comprend une première traduction en latin du Zhongyong. Donc je reviens à mon glossaire ici. Le Zhongyong qui fait partie lui aussi donc des quatre livres, et cette nouvelle compilation, donc le Sinarum Scientia Politico Moralis, comprend également une biographie un peu plus développée que la précédente de Confucius, qui est intitulée la Confutii Vita, c'est-à-dire donc la vie de Confucius. Alors les jésuites, on peut le dire, se retrouvent tellement bien dans ce qu'ils comprennent des classiques confucéens que c'est ce même père Intorcetta qui n'hésite pas à affirmer que si Confucius avait vécu à son époque, à son époque à lui, s'entend, à Intorcetta, c'est-à-dire au XVIIe siècle, Confucius aurait été le premier à se faire chrétien. Donc là, il y avait véritablement une sorte d'alliance objective donc, entre les jésuites et les lettrés confucéens. De fait, les jésuites, à commencer par Ricci, ont très vite compris que la lecture que faisaient leurs contemporains chinois des classiques, notamment des entretiens de Confucius, devait beaucoup plus à Zhu Xi, donc à la lecture, disons, des Song tardifs, et à toute l'élaboration néo-confucéenne post-bouddhique qui a suivi, que cette lecture donc, du XVIe-XVIIe siècle chinois doit beaucoup plus donc, à ce que les occidentaux ont appelé le néo-confucianisme qu'à Maître Kong, à Confucius lui-même. D'une certaine façon, le rapprochement opéré par Ricci entre l'éthique des entretiens et la philosophie morale tant stoïcienne que chrétienne dont nous avons parlé la dernière fois, donc ce rapprochement est fondé sur une relecture des entretiens qui voudrait en restituer l'esprit originel en mettant de côté, en quelque sorte, toutes les constructions commentariales qui se sont faites depuis les Song au XIe, XIIe siècle. Ricci, en effet, a vite fait de remarquer que la métaphysique qui sous-tend les lectures néo-confucéennes, je cite Ricci, semble avoir été empruntée à la secte des idolâtres. Nous avons vu donc précédemment que c'est par ce terme, donc cette expression de secte des idolâtres, que les jésuites désignent les bouddhistes. Donc cette lecture néo-confucéenne semble avoir été empruntée, selon Ricci, donc aux bouddhistes il y a 500 ans, c'est-à-dire donc bien au XIIe siècle, à partir de Zhu Xi. Et Ricci en arrive à la conclusion que ça n'est pas Confucius. Ça n'est pas l'enseignement originel de Confucius. Alors cette idée que le néo-confucianisme des Song puis des Ming, n'est pas l'enseignement originel de Confucius, mais qu'il est largement nourri par des idées bouddhiques, deviendra un fondement du, de ce qu'on appelle en chinois le hanxue, c'est-à-dire donc les études de Han, par référence à un retour aux lectures des Han, c'est-à-dire entre le deuxième siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au deuxième siècle de l'ère chrétienne, donc retour à ces lectures Han par-delà donc les lectures des Song et des Ming. Alors ce Hanxue se trouve commencer à se développer donc à la fin des Ming, c'est-à-dire à peine quelques décennies après la mort de Ricci et pendant toute la période manchou des Qing. Là, je pense que c'est un problème assez complexe de savoir en fait quelle est la part justement éventuelle des missionnaires jésuites justement dans le développement de ce nouveau, cette nouvelle forme de savoir chinois. Toujours est-il que le Sinarum Scientia Politico-Moralis du père Intorchetta connaît une bonne fortune puisqu'il est traduit presque immédiatement en français sous le titre « La science des Chinois » et republié en 1672 par un certain Melchisédek Thévenot, bibliothécaire de Louis XIV, sous la forme carrément plus grand public d'un ouvrage qui s'intitule « Relations de divers voyages curieux » en 4 volumes. Alors on voit ainsi comment les classiques chinois se trouvent transférés donc en Europe dans un double mouvement, c'est-à-dire un mouvement à la fois d'intégration dans le savoir européen en se voyant qualifié de sapientia ou de scientia, titre que on trouve facilement donc enfin couramment accolé donc à des ouvrages de philosophie européenne à l'époque, donc à la fois ce mouvement d'intégration et un mouvement inverse d'exotisation ou d'exoticisation, je ne sais pas trop comment on dit, comme curiosité. Hein, vous voyez que la sapientia scientia, la sapientia politico moralis devient une relation de voyage curieux. Hein, donc là, nous avons une volonté effectivement de présenter la Chine comme une sorte d'ailleurs lointain et exotique et donc sujet de curiosité. Alors, nous en venons maintenant à quelque chose d'important sur lequel nous aurons l'occasion de revenir avec, je le rappelle, la conférence du professeur Thierry Ménard, ici même au collège, donc le 16 février à 14h30. Mais je pense que je peux difficilement donc faire l'impasse sur cet ouvrage important qu'a été donc le Confucius Sinarum Philosophus, dont je vous parle déjà depuis quelque temps. Donc, en 1687, un groupe de jésuites composé de 27 contributeurs au total, qui représentent une sorte de, comment dire, déjà de véritable communauté européenne, puisque vous avez sur la page titre 4 d'entre eux qui sont qui viennent de pays différents. Donc vous avez deux Flamands, Philippe Couplet et François Rougemont. Vous avez un Italien, donc on retrouve là aussi le père Intorchetta, et un Autrichien donc, qui s'appelle Christian Hertrich. Et donc au total, vous en avez 27 qui viennent de pays européens différents. et qui publie donc cet énorme ouvrage intitulé « Le Confucius Sinarum Philosophus » en sous-titre « Siwe Scientia Sinensis Latine Exposita », ce qui veut dire donc le Confucius, philosophe des Chinois ou philosophe de la Chine, comme vous préférez, ou bien la science chinoise exposée en latin. Sur cette page titre, vous avez aussi l'indication que cet énorme ouvrage a été imprimé par Daniel Ortemels, vous avez l'indication en bas, imprimeur donc à Paris, et même vous avez l'adresse, c'est rue Jacob, rue Jacob qui se trouve être l'adresse également des éditions du Seuil actuellement, jusqu'à nouvel ordre en tout cas. Et naturellement, vous avez également l'indication que cet ouvrage a été publié sur ordre de Ludovici Magni, donc de Louis XIV, qui, je vous le rappelle, nous connaissons bien notre histoire de France, mais c'est important quand même de rappeler ces dates vues de la Chine, qui a régné donc entre 1661 et 1715. Alors, ce même le roi Louis XIV, qui vient aussi tout juste en 1685 de procéder à la révocation de l'édit de Nantes par laquelle le protestantisme n'a plus droit de cité au royaume de France et qui donc ouvre grand la voie à la contre-réforme dont les jésuites sont censés être un des fers de lance. Alors signalons aussi que 1687 et l'année de publication à Londres des Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donc des principes mathématiques de la philosophie naturelle d'Isaac Newton. C'est une coïncidence, mais elle prendra toute sa signification dans l'introduction de la Chine des Jésuites au beau milieu de la révolution scientifique européenne. Alors que un siècle plus tôt, Ricci et sa génération représentaient les pionniers de l'acculturation des jésuites en terrain chinois, ce sont eux qui ont défriché donc le terrain de l'apprentissage de la langue, de la culture et des mœurs chinoises, et ils ont également fait le travail de soubassement des premières traductions du chinois en latin, comme on l'a vu. Donc, un siècle plus tard, Couplet et son équipe en recueillent les fruits pour les présenter sur le marché européen, en assurant ainsi l'importation donc de cette Chine des jésuites au cœur des débats intellectuels, scientifiques et religieux européens. De fait, à ce stade, donc, nous sommes à la fin du XVIIe siècle, le public européen, on peut dire, est déjà, si vous me passez l'expression, chauffé à blanc. Et il reçoit donc la parution de cet ouvrage, le Confucius Sinarum Philosophus, dans un comble d'excitation. On sait par sa correspondance avec les jésuites que, par exemple, Leibniz était déjà informé donc de ce projet par ses relations personnelles donc avec certains pères jésuites. Alors, comme vous le voyez, le Confucius Sinarum Philosophus se présente comme un ouvrage de luxe, de très grand format, avec illustrations et bien sûr les fleurs de lys en tête de chaque section qui manifestent le patronage royal de Louis XIV. Alors, cet ouvrage, le professeur Ménard y reviendra certainement, mais je pense qu'il est important de détailler de manière au moins sommaire ce qu'il comprend. Vous avez notamment une carte de la Chine telle qu'elle se présente donc à l'époque où les jésuites se trouvent en Chine. Alors pour vous, cette carte peut paraître assez banale, mais je pense que dans l'esprit des élites chinoises, cette représentation objectivée de l'espace chinois, de l'empire chinois, est une autre manière, une manière tout à fait nouvelle, de se représenter ce que eux désignent comme le tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. Alors ici, cette manière de représenter la Chine sous forme de carte géographique est une manière donc de renvoyer donc aux Chinois le fait que l'Empire chinois n'est juste qu'une partie du monde, hein, et que on peut le représenter donc de manière tout à fait objective. Vous avez également dans cet ouvrage des tables chronologiques dont vous avez le début ici. Vous avez cette tabula chronologica monarchiae sinicae ante Christum, c'est-à-dire une table chronologique de la monarchie chinoise avant Jésus-Christ. Alors, il s'agit, comme vous le voyez par sa présentation, donc d'une table chronologique comparative des histoires chrétiennes et chinoises. Donc là, vous avez une sorte à plusieurs colonnes. Alors, cette table couvre donc une très vaste période depuis les origines mythiques de la civilisation chinoise aux environs de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc là, vous avez sur la première page donc l'évocation du règne de l'empereur mythique, l'empereur jaune, Huangdi. Donc ça remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la dynastie contemporaine pour les jésuites, la dynastie Manchu des Qing. Donc ces tables vont jusqu'à l'an 1683. Alors, cette table comparative met en regard les règnes des souverains de l'histoire chinoise, donc, comme je l'ai dit, à commencer par les rois mythiques de la très haute antiquité, avec la chronologie de la Bible des Septante, ce qui permet de faire de Yu le Grand, fondateur de la dynastie semi-mythique des Xia, un contemporain de Noé, et ce qui permet aussi de situer les règnes suivants des souverains de la dynastie Xia, donc après le déluge. Donc là, cette référence à une civilisation donc antédiluvienne a son importance. Dans ce même schéma, celui que les jésuites appellent Confucius, Seu Confucius, apparaît comme un descendant direct de la dynastie antique des Shang, celle qui a succédé au Xia. Et je rappelle donc que dans toute cette compilation, il est le seul personnage à se voir attribuer un nom latinisé. Tous les autres noms de l'histoire chinoise ne sont pas latinisés. Ainsi, la fameuse Scientia Sinica n'est plus seulement compatible avec la foi chrétienne, elle en est carrément devenue le précurseur dans un schéma historique continu. C'est ce que montre très bien cette table chronologique. Alors, le Confucius Sinarum Philosophus comprend aussi une introduction critique approfondie qui s'intitule la Proemialis Declaratio, qui est longue de 113 pages et qui présente les cinq classiques et les quatre livres, donc les Wu Jing et les Se Shou, puis donc les fondamentaux du taoïsme et du bouddhisme, suivis de la pensée des philosophes Song, pour finir donc sur des considérations concernant le Yi Jing, ou le livre des mutations, donc un des cinq classiques anciens donc de la tradition confucéenne. Alors, vous savez naturellement quel rôle a joué ce livre des mutations, donc ce Yi Jing, sur la, disons, comment dire, ou plus exactement que ce qu'en a fait Leibniz. Alors, vous avez ici la page donc du Confucius Sinarum Philosophus concernant donc la diagrammatisation du livre des mutations, qui commence par le duo rerum principia, c'est-à-dire donc les deux principes des choses. Comme vous le savez sans doute, le livre des mutations s'organise sur 64 hexagrammes qui sont toutes les combinaisons possibles que vous pouvez avoir en alternant donc un trait plein et un trait interrompu ou un trait brisé, donc un trait, comme dit la tradition chinoise, un trait yang ou un trait yin, donc toutes les combinaisons possibles sur trois niveaux qu'on appelle les trigrammes, donc vous avez huit combinaisons possibles, ou huit trigrammes, ou sur six niveaux, c'est-à-dire donc vous avez donc 8 x 8, 64 hexagrammes. Donc là, vous avez sur cette première page les combinaisons possibles sur deux niveaux et ensuite les combinaisons possibles sur trois niveaux qui sont représentées ici donc en cercle. Et sur la page suivante, vous avez donc la tabula sexaginta quatuor figurarum, c'est-à-dire donc la table des 64 figures ou hexagrammes donc du livre des mutations. C'est-à-dire donc cette 64 combinaisons possibles de ces deux traits pleins et brisés sur six niveaux. Donc vous savez tous que Leibniz justement a été très intéressé par cette disposition, puisqu'il y a vu justement les fondements enfin du calcul binaire. En somme, nous avons là dans cette proemialis declaratio, donc dans cette partie introductive de 113 pages, la première présentation systématique de la pensée chinoise destinée au public européen. Vous avez en outre, dans ce Confucius Sinarum Philosophus, une biographie de Confucius qui reprend bien sûr les éléments donc des biographies précédentes, qui est essentiellement inspirée de celle de Sima Qian, Sima Qian dont nous avons eu l'occasion de parler l'année dernière, et qui a fourni donc une première biographie au début de l'époque Han, c'est-à-dire au IIe siècle avant l'ère chrétienne, mais tout de même plusieurs siècles donc après le vivant de Confucius. Donc là, nous aurons l'occasion de revenir justement sur cette biographie ancienne de Sima Qian. Mais pour l'instant, donc, venons-en à cette Philosophorum Sinensium Principis Confucii Vita, vous avez le titre ici, c'est-à-dire la vie de Confucius, princeps, alors donc prince au sens étymologique de premier, donc premier des philosophes chinois. Alors, vous avez ici la première page de cette biographie avec en face un très intéressant portrait donc de Confucius ici que vous avez sans les couleurs et plus en détail donc ici. Ce portrait est donc le premier à tenter de représenter, enfin de donner une représentation physique de Confucius. Alors je ne sais pas si vous voyez très clairement que nous avons des traits quelque peu européanisés et un décor qui se veut évidemment un petit peu exotique. Vous avez les fameux chapeaux chinois ici, qui vont rester dans l'imaginaire colonial naturellement. Je précise que ce portrait est l'œuvre de graveurs français, probablement de la rue Jacob. Hein, et donc, ils ont fait vraiment ce qu'ils ont pu avec les éléments qu'on leur a donnés. Mais enfin, donc, vous avez donc ce Confucius un petit peu européanisé. Et en arrière-fond, donc, une bibliothèque, elle aussi, assez européanisée. Dans la diapositive précédente, vous voyez un petit peu comment se présente la chose. Et si vous regardez un petit peu dans le détail, vous verrez qu'il y a en fait ici les titres. Vous entrevoyez donc les titres, par exemple, des quatre livres que les jésuites se sont attachés donc à traduire. Alors, cette représentation donc de Confucius sera la matrice de pratiquement toutes les représentations ultérieures de Confucius en Europe. Vous avez par exemple celle-ci, on peut s'amuser à faire un jeu des sept erreurs, donc entre celle-ci donc de 1687 et celle-ci qui date de 10 ans plus tard, 1696, qui figure dans les nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine du père Louis Lecomte. Et il est tout à fait piquant de constater que le portrait jésuite qui a servi de matrice pour les représentations européennes a également servi de modèle pour la statue de Confucius érigée en 2001 à l'entrée du campus de l'Université du Peuple à Pékin, le Jianmingtaxue. Je vous montrais déjà cette photo l'année dernière. Les Chinois, dans leur enthousiasme à reconfucianiser donc la société chinoise, donc ont érigé ces statues de Confucius un petit peu partout. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que ce soit l'Université du Peuple, donc ancienne école du parti, qui a été la première à prendre cette initiative. Et vous remarquerez la ressemblance frappante qu'il y a entre ce Confucius et celle des jésuites. Un point qui n'a évidemment pas manqué d'irriter au plus haut point l'historien Li Ling, donc de l'Université de Pékin, dont je vous parlais l'année dernière, et dont je vous disais qu'il est en guerre contre ceux qu'il appelle les fondamentalistes néo-confucéens. Donc je l'ai entendu fulminer justement contre cette représentation de Confucius. Alors, il me reste à quand même signaler que ce Confucius Sinarum Philosophus, pour revenir à lui, comprend bien sûr une traduction latine de trois des quatre livres, de trois des Sishu, dans l'interprétation donc de Zhang Jucheng, je vous parlais donc la dernière fois, qui a donc été le précepteur de l'empereur Wanli des Ming. Les jésuites, comme je le mentionnais la dernière fois, donc, ont bien utilisé un commentaire plus ou moins contemporain. Ils ne sont pas revenus de manière insistante sur l'interprétation canonique de Zhuxi. Et donc, il y a chez eux bien une volonté, je pense, de se démarquer de l'orthodoxie donc de Zhuxi, l'orthodoxie des Song. Et contrairement à Zhuxi qui préconisait de commencer par le Daxue, suivi des entretiens de Confucius, suivi du Mengzi, du Mencius, pour finir par le Zhongyong, les jésuites, eux, adoptent un autre ordre. Ils présentent d'abord le Daxue, c'est-à-dire la grande étude, puis le Zhongyong, et ensuite les entretiens. Et ils laissent de côté donc le Mengzi. Il n'y a pas de traduction du Mencius dans le Confucius Sinarum Philosophus. Alors, je voulais vous montrer également donc la page de l'introduction, donc de la Proemialis Declaratio, où vous avez donc au deuxième, dans ce paragraphe ici du milieu, la mention donc des entretiens. Alors là, je crois que vous n'arrivez pas sans doute à lire le texte donc original. Il est ici question donc du Lunyu, donc ici dans la transcription des jésuites, et ensuite vous avez l'indication quasi dicant ratiocinantium colloquia seu sermones, c'est-à-dire donc le Lunyu que les jésuites traduisent par conversation ou discours de ratiocinantium, c'est-à-dire littéralement de gens occupés à raisonner. Et ailleurs, vous avez également l'indication que l'œil, c'est un recueil de propos de gens occupés à philosopher, sermones philosophantium. Donc ici, il est clair que vous avez une volonté de la part des jésuites de transformer donc les entretiens de Confucius en un ouvrage philosophique. Je rappelle que le titre chinois, Le Yu, désigne tout simplement des conversations ou des propos recueillis à l'oral. Alors que ici, le Confucius Sinarum Philosophus assimile d'emblée les entretiens de Confucius au dialogue socratique, tel qu'il se présente chez Platon. Et Confucius est donc clairement identifié comme un philosophus, un philosophe, dans le même sens que les philosophes de l'Antiquité grecque. Matteo Ricci a été parmi les premiers justement à désigner Confucius justement parmi donc ce qu'il appelait les philosophes ethniques. En outre, la volonté de traiter les classiques confucéens comme des ouvrages philosophiques apparaît aussi dans des partis pris de traduction. Le Confucius Sinarum Philosophus traduit fréquemment des termes chinois comme li ou tao. Li ou tao, qui sont des notions clés dans le vocabulaire des textes canoniques et dans leurs commentaires. Donc, ces notions clés, li désignant, là j'aurai certainement l'occasion d'y revenir très largement, mais li ici est un principe d'ordre, de mise en ordre, un principe d'ordonnancement, et tao veut dire tout simplement donc le chemin, la voie. Alors ces termes qui reviennent très très fréquemment donc dans la littérature canonique, nos traducteurs jésuites choisissent de les traduire par le latin ratio, qui peut signifier tout à la fois une règle ou une proportion. C'est encore dans ce sens qu'on utilise le mot ratio dans la langue moderne française. Bien sûr, c'est la traduction latine de raison, le principe, etc., etc. Alors, il me paraît tout à fait intéressant de voir comment donc les jésuites traduisent, par exemple, on a vu tout à l'heure la première phrase de la grande étude, le Tashue, mais ici vous avez donc la première phrase du Zhongyong que les jésuites choisissent de comprendre par l'invariable milieu. Alors c'est une traduction évidemment qui se discute, je ne m'y arrête pas pour l'instant, hein, mais le Zhongyong est donc un des quatre livres que les jésuites traduisent dans cette compilation. Alors vous avez donc en chinois donc cette première phrase, « Tian ming zhi wei xing, shuai xing zhi wei dao, xiu dao zhi wei jiao. » Donc vous avez trois membres de phrases donc, qui constituent cette première phrase. Alors si je traduis ou je propose une traduction à peu près littérale du chinois, ça donne à peu près ceci. Ce que le tian, c'est-à-dire ce que le ciel commande, est appelé xing, qu'on traduit conventionnellement par nature humaine. Shuai xing zhi wei dao, ce qui régit cette nature s'appelle le Tao, c'est-à-dire le chemin ou la voie. Et Xiu Tao, Zhuwei Jiao, c'est-à-dire cultiver ce Tao, ce chemin, s'appelle enseignement. Ça, c'est donc une traduction à peu près donc, littérale de cette première phrase. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne donc, dans le latin du Confucius Sinarum Philosophus. Vous avez ici le texte original que je vous relis en latin. Donc, id quod acaelo est homini inditum dicitur natura rationalis. Quod uic conformatur natura et eam consequitur dicitur regula. Seu consentaneum rationi restaurare quoad exercitium anc regulam se suaque peream moderando dicitur institutio seu disciplina virtutum. Alors si je traduis le latin donc des jésuites, si j'ai pas complètement perdu mon latin, ça doit donner quelque chose comme: ce qui est dicté à l'homme par le ciel, acaelo, est appelé natura rationalis, donc nature rationnelle. Natura rationalis est censé donc traduire le mot chinois xing, qui veut dire tout simplement enfin, le fond humain. Bon, alors eux choisissent de traduire par natura rationalis. Ce qui se conforme à cela par nature et qui s'ensuit est appelé regula, règle, c'est-à-dire conforme à la raison, consentaneum rationi. Donc nous avons deuxième occurrence du mot ratio ici. Restaurer cette règle comme exercice en se modérant en vertu d'elle s'appelle institution, c'est-à-dire discipline des vertus. Somme toute, comme le dit Lionel Jensen, auteur de cet ouvrage que j'ai eu l'occasion de mentionner déjà, Manufacturing Confucianism, hein, donc fabriquer la fabrique du confucianisme. Donc, même si les thèses de Jensen, comme je l'ai indiqué, sont assez contestables, Jensen a probablement raison de qualifier le Confucius Sinarum Philosophus de véritable magnum opus de l'accommodement, hein, de la stratégie d'accommodement des jésuites. Depuis Matteo Ricci, on l'a vu, le Confucius des jésuites apparaît comme un philosophe ethnique, comme il l'appelle, auquel les Chinois rendent un culte, mais qui n'est pas un culte religieux. Ça, c'est véritablement le cœur, justement, de leur stratégie d'accommodement. Et comme le rappelle Nicolas Standart, dont j'ai également eu l'occasion de parler à propos justement des thèses de Jensen, qu'il critique à juste titre, cette idée d'un culte sans contenu religieux a beaucoup de mal à être acceptée par les contemporains européens des jésuites. Il suffit de voir la recension du Confucius Sinarum Philosophus par Jean Leclerc, qui date de 1687. Donc là, vous voyez que cet ouvrage a suscité des réactions immédiates, l'année même de la parution. Jean Leclerc dit ceci: « Malgré tout cela, les révérends pères jésuites auront beaucoup de peine à persuader aux Européens que la vénération excessive des Chinois pour ce philosophe ne soit qu'un respect purement civil et qu'on ne lui rende pas les honneurs divins. » De la même façon, le grand philosophe Leibniz émet des doutes dans un petit texte écrit en latin qu'il a intitulé « Le De cultu Confucii, qui willi », c'est-à-dire sur le culte civil de Confucius. Excusez-moi d'ailleurs à ce propos, je dois dire que moi j'ai été formée donc à la prononciation dite restituée, ça écorche sans doute vos oreilles, mais je ne sais pas prononcer le latin autrement. Donc sur le culte civil de Confucius, donc un petit texte rédigé en toute probabilité entre 1697 et 1699, donc là nous sommes en pleine querelle des rites, et qui a été reproduit en appendice à un volume édité par Christine Frémont, intitulé « Discours sur la théologie naturelle des Chinois », paru aux éditions de Lerne en 1987. Alors, le début de ce texte, et alors là je vous épargne donc le latin, Leibniz écrit: rédigeant la préface de mes Novissima Sinica, je penchais vers l'opinion que lorsque les lettrés chinois rendent des honneurs à Confucius, c'est plus une cérémonie civile qu'un culte religieux. Donc là, Leibniz suit la thèse des jésuites. Un culte religieux, pour en chercher la définition, là nous entendons le philosophe qui cherche tout de suite la définition. Un culte religieux, pour en chercher la définition, est, si je ne me trompe, ce par quoi nous attribuons à celui que nous honorons une puissance supérieure à l'humaine de nous accorder des bienfaits ou de nous infliger des châtiments. Donc là, Leibniz note bien au passage que les jésuites croient observer que les cultes rendus à Confucius sont, selon eux, civils, dans la mesure où ils ne lui demandent rien. Donc c'est ça le critère, justement, pour décider que ce ne sont pas des cultes religieux. Alors, Leibniz continue: dans le culte que les Chinois rendent à Confucius et à d'autres défunts de grand mérite, et tout d'abord à leurs ancêtres, il est évident qu'il se présente des choses qu'on tient fréquemment ailleurs pour religieuses. Mais il est certain que la plupart de ces marques sont fort équivoques, au point que l'adoration parfois est un culte politique et que les empereurs chrétiens prirent le nom même de la divinité. Alors, nous reconnaissons ici donc le caractère de l'authentique philosophe qu'est Leibniz, qui, au beau milieu donc de la querelle des rites qui fait rage autour des années 1700, cherche tout de même à trouver une vision à peu près équilibrée et critique. Alors, Voltaire, pour sa part, donne beaucoup moins dans la subtilité que Leibniz. Lui, il y va sans embâge. Autant dire qu'il, là aussi, passez-moi l'expression, qu'il met carrément les pieds dans le plat, pour dénoncer les contradictions sur lesquelles s'enferrent, selon lui, les débats sur le caractère religieux ou non des Chinois. Il le dit dans un supplément à son dictionnaire philosophique, dont la première édition paraît en 1764. Alors, bien sûr, le dictionnaire philosophique, comme vous savez, est un ouvrage éminemment polémique, où Voltaire s'en prend de manière assez véhémente au fanatisme religieux qu'il dénomme l'infâme. Alors, Voltaire dit ceci: on a examiné plusieurs fois cette accusation d'athéisme des Chinois intentée par nos théologos d'Occident contre le gouvernement chinois à l'autre bout du monde. C'est assurément le dernier excès de nos folies et de nos contradictions pédantesques. Tantôt, on prétendait dans une de nos facultés que les tribunaux ou parlements de la Chine étaient idolâtres, tantôt qu'ils ne reconnaissaient point de divinité, et ces raisonneurs poussaient quelquefois leur fureur de raisonner jusqu'à soutenir que les Chinois étaient à la fois athées et idolâtres. Donc là, vous avez donc une opinion, bien sûr, beaucoup plus marquée, beaucoup plus tranchée. Voltaire donc termine son article de la Chine, donc du dictionnaire philosophique, en disant ceci: la religion des lettrés, c'est ainsi que on traduit le latin des jésuites literati, donc nous allons voir que cette religion ou cette pensée lettrée va faire florès. Donc la religion des lettrés, encore une fois, est admirable. Point de superstition, point de légendes absurdes, point de ces dogmes qui insultent à la raison et à la nature et auxquels des bonzes donnent 1000 sens différents parce qu'ils n'en ont aucun. Le culte le plus simple leur a paru le meilleur depuis plus de 40 siècles. Ils sont ce que nous pensons qu'étaient Seth, Enoch et Noé. Ils se comptent. Alors là, vous voyez que Voltaire a bien lu la table chronologique. Ils se contentent d'adorer un dieu avec tous les sages de la terre, tandis qu'en Europe, on se partage entre Thomas et Bonaventure, entre Calvin et Luther, entre Jansénus et Molina. Donc ici, Voltaire veut évidemment forcer le trait, donc en opposant une sorte de Chine rationnelle, purement civile, à une Europe qui se déchire donc sur des questions religieuses. Alors, outre l'impossibilité anthropologique d'un culte sans contenu religieux, il faut quand même remarquer que les jésuites passent par-dessus les interactions multiples qui ont toujours existé entre confucéens, entre ce que les jésuites appellent les Zhou, les bouddhistes, c'est-à-dire donc ce que les jésuites appellent shi ou fo, et les taoïstes, les tao. Je vous rappelle que dans la terminologie des jésuites, les bouddhistes sont les idolâtres, alors que les taoïstes sont les sorciers. Alors que les confucéens ont droit quand même au label de lettrés. Alors, comme on l'a remarqué précédemment, logiquement, les jésuites auraient dû appeler les trois sectes chinoises, ils appellent ça des sectes, ils auraient dû les qualifier de fausses religions. Mais évidemment, ils ne peuvent pas s'empêcher d'assigner un statut à part donc à la secte des lettrés, qu'ils considèrent comme une philosophie et dont ils qualifient les rites de civils ou politiques, afin de montrer qu'ils ne sont pas incompatibles avec le culte chrétien. Mais je vous rappelle que c'est précisément ce point, avec la sanctification de Confucius, qui se retrouve au cœur de la querelle des rites, sur laquelle je passe rapidement, puisque là vous avez une littérature évidemment pléthorique. Donc on peut dire que les jésuites passent une sorte d'alliance objective entre, d'un côté, leur propre foi dans le catholicisme de la contre-réforme et dans leur mission de conversion accommodationniste, et de l'autre, entre la religion des... et de l'autre, vous avez bien sûr la religion des lettrés qu'ils ont inventée et qui est censée combattre les autres sectes chinoises qualifiées, elles, de fausses religions, c'est-à-dire donc de superstition, hein, donc de ce qu'on a appelé donc en chinois mi-xin, mi-xin, c'est-à-dire des croyances qui égarent. Et j'en terminerai pour aujourd'hui sur le témoignage d'un converti chinois que les jésuites appellent à la rescousse dans leur Confucius Sinarum Philosophus, le fameux Xu Guangqi, donc non-chrétien Paul Xiu, qui a collaboré, comme on l'a vu les fois précédentes, avec Matteo Ricci, notamment sur la traduction en chinois donc des éléments d'Euclide, mais qui était mort au moment où le travail sur le Confucius Sinarum Philosophus commençait. Alors donc là, je vous livre ce témoignage pour ce qu'il vaut, hein, il n'est pas forcément authentique. Alors donc, vous avez donc dans l'introduction, la Proemialis Declaratio, le témoignage résumé de ce Xu Guangqi, qui vous dit ceci, hein, la citation est en italique: Supplet illa et perficit quod magistro nostro Confucio, nostraeque literatorum philosophiae deest. Nefarias vero superstitiones, cultumque daemonum tollit, ac radicitus extirpat. Donc, Xu Guangqi aurait affirmé que la foi chrétienne, je cite, supplée et parachève ce qui manque, déest, ce qui manque chez notre maître Confucius et dans la philosophie des lettrés. Alors là, cette comparaison, cette forme comparative par le manque, hein, ce qui manque à la Chine, c'est quelque chose qui également fera fortune ultérieurement. La foi chrétienne enlève vraiment. Nous avons, oui, une très jolie petite musique pour accompagner notre conclusion. Donc, elle enlève vraiment et extirpe à la racine les superstitiones, donc les superstitions néfastes, et le culte des démons. Donc là, on peut dire que nous avons une sorte, ce que j'ai appelé tout à l'heure, une alliance objective entre jésuites et lettrés confucéens, pour rejeter taoïsme et bouddhisme dans la catégorie superstition. Et c'est une idée qui subsistera au XIXe siècle et qui a encore, dans une certaine mesure, la vie très dure aujourd'hui. Bien, je conclus là-dessus aujourd'hui. Et donc, encore une fois, bonne année et à la semaine prochaine.